Le plus vieil arbre du monde est âgé de près de 5000 ans. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de Clic-Clac-Topette, le seul programme qui aborde l'histoire angevine sur les ondes. Aujourd'hui, notre invité est Emmanuel Dupont, le directeur du château du Plessis-Massé. Ce magnifique écrin historique à l'expression de la culture est bien connu en Anjou. Pourtant, Emmanuel Dupont et son équipe vont une nouvelle fois sublimer le lieu grâce à ses atouts naturels. Il vous en dit plus dans quelques instants. En fin d'émission, nous aurons par téléphone Jean-Yves Rondeau, président du RAP, le Réseau des acteurs du patrimoine en Anjou Bleu. Il nous expliquera les missions que s'est donnée cette association pour promouvoir le patrimoine aux Angevins. Et puisque vous êtes certainement amoureux de l'Anjou si vous écoutez cette émission, je vous propose de gagner L'Anjou Remarquable, un livre photo aux éditions de la Geste. Pour participer au concours organisé par des Instagrammeurs, j'ai relayé leurs infos dans la story de Clic-Clac-Topette. Petit clin d'œil à Kevin Siao. Il est temps de commencer. Et l'on commence avec le billet indépendantiste de Monseigneur Denis Gremont, avec Ouest France, qui exprime son mécontentement à propos du classement des villes qu'on voit fleurir un peu partout en ce moment.
Le classement de trop, ou Villebernier, Varins et autres casus belli. Il ne se passe pas de semaine que l'on ne nous tympanise avec une nouvelle enquête classant en un ordre plus ou moins favorable les villes de France, dans lesquelles classement, le plus souvent, Angers se taille la part du lion. Pour le plus grand bonheur des édiles locaux et des milliardaires russes qui commencent à trouver l'immobilier angevin plus juteux que l'or ou le diamant. Il y a quelques jours, c'était au journal du dimanche de nous gratifier d'un nouveau classement. Singulier, celui-là, en ce qu'il ambitionnait de hiérarchiser toutes les communes de France où il fait bon vivre, des plus petites aux plus grandes. La restitution de cette enquête, qui procède à un classement des 500 communes de plus de 2000 habitants et à un classement des 500 de moins de 2000, est édifiante pour l'Anjou. Il en ressort, presque sans surprise, que pour les villes, Angers se classe en tête, troisième après Annecy et Bayonne. Plus étonnant, j'hésite à dire miraculeux, l'on trouve à la 90e position Cholet, après Rouen, 89e, et devant Lille, 91e. Le TRC de tête angevin est complété par Saumur, à la 192e place. Pour les villages, seuls deux d'entre eux parviennent à se classer. Varins à la 424e place et Villebernier à la 491e, autant dire quasi-dernière. Si l'on se réjouit du classement plus qu'avantageux de nos villes, Choletais moi-même, je ne me remets pas de cette divine surprise, il est quand même très humiliant de devoir constater que parmi les dizaines de villages français, il ne s'en est trouvé que deux en Anjou. J'ai le plus infini respect pour Varins et Villebernier, mais de là à affirmer que ce sont les plus agréables villages angevins... pour figurer dans le classement des 500 premiers, et encore en queue de classement. Non, décidément, la France ne nous mérite pas. C'est pourquoi, en attendant une proche indépendance qui nous permettrait d'organiser notre propre concours, nous enjoignons solennellement au JLD ou à toute autre publication qui aurait fantaisie de l'imiter, de bien vouloir, à l'avenir, exclure les communes d'Anjou de tout classement. Faute de quoi, il nous faudrait voir là une manœuvre barbouzarde du gouvernement français visant à semer la zizanie parmi nous.
Et quand on sait qu'il existe aussi un classement des villes où il fait bon vivre avec son chien... Le château du Plessis-Massé, c'est 1000 ans d'histoire, l'avenue de 4 rois de France et 18 000 visiteurs par an, aujourd'hui, hors confinement et festival d'Anjou, bien évidemment. Emmanuel Dupont, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du château du Plessis-Massé. Autrement dit, c'est vous qui prenez les décisions à propos de la ligne culturelle des activités, mais vous êtes aussi un peu comédien, il me semble.
Alors oui, on peut aller jusque-là. Après, le principe, c'est que ce genre de décision, ça se réfléchit et ça se concerte en équipe. Donc je travaille pour un établissement public de coopération culturelle qui s'appelle Anjou Théâtre. Et dans ce cadre-là, cette structure, par le biais de toute l'équipe qui travaille pour le château, du côté de la médiation, de son administration, on est amené en fait à le valoriser tout au long de l'année. On est vraiment sur cette thématique-là, en fait, comment on peut faire que château vive au gré des saisons, aille vers tous les types de publics. On travaille beaucoup en fait sur cette forme de segmentation des publics pour essayer d'aller toucher tout un chacun, que les personnes aient les codes ou non, qu'elles aient accès ou non, pour essayer de faire au mieux pour qu'ils puissent être appréhendés par le plus grand nombre.
Pour cette année 2021, vous allez pousser encore un peu plus loin l'animation de ce patrimoine en passant par le végétal.
Il s'avère que autour du château, on a un parc qui est rattaché à un espace naturel sensible, un ENS, tel qu'il est appelé dans la nomenclature, et que dans ce cadre-là, on a un espace de prairies sauvages, de pâtures, de points d'eau, de mares, voire de sous-bois, qui est valorisé, mis en avant en fait par le propriétaire du château, le département de Maine-et-Loire, au travers voilà, de différentes activités en collaboration avec les agriculteurs ou avec les collectivités en fait qui sont attenantes. Et nous, on n'y était jamais allé. Alors, aller, en fait, on y va tout le temps, mais aller sur ce terrain-là, c'est-à-dire travailler aussi ce regard que nos visiteurs peuvent porter. Alors, on a énormément de promeneurs le dimanche, mais également tous ceux qui sortent du château et qui vont profiter du parc paysager. Comment on peut les amener, en fait, aussi à découvrir avec plus de précision, avec un autre œil, en fait, tout ce qui se passe tout autour du site. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a décidé cette année particulièrement d'axer fortement sur l'aspect végétal, en fait, de nos proposition, une découverte à la fois thématique autour de la faune et la flore, également en fait un lien avec l'histoire du château à travers les siècles, comment en fait la main de l'homme a pu transformer en fait l'espace environnant. Et ça se fait aussi avec un point de mire. On a hâte d'y arriver puisque on doit à la fin de l'été avoir un sentier d'interprétation tout beau, tout neuf en fait, qui nous est proposé par l'agence Au fil du temps. C'est une opération départementale qui porte en fait cette création. Donc ce sera en fait construit et aménagé entièrement en fait dans le parc autour du château et également sur le sentier en fait qui existe déjà pour aller découvrir l'ENS. Donc c'est un très bel objet.
Alors si on revient au fondement de l'animation théâtrale du Plessis-Massé, ce qui fait un peu son identité d'ailleurs aujourd'hui, quelle perspective avez-vous, Emmanuel Dupont, pour 2021?
Alors, je ne sais pas si je pourrais donner des perspectives au vu du statut du lieu aujourd'hui, mais dans tous les cas, on a trouvé une ligne d'incarnation du château qui existait déjà depuis une bonne vingtaine d'années. On sait que le lieu accueille le Festival d'Anjou. On a une programmation tout au long de l'année théâtrale. Et depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, on a décliné des activités pour faire découvrir le site à différents publics sous la forme théâtrale. C'est devenu un peu notre marque de fabrique. Donc, on va de la visite théâtralisée pour les tout-petits, à des déambulations comptées, voire à des murder parties ou des escapes, en fait, rooms, qui sont pour les plus grands.
Donc, fait maison.
Tout à fait, c'est important de le préciser. Je suis assez content de valoriser le travail de mes collègues parce qu'on a une équipe de médiation qui fait un travail vraiment de conséquence sur le terrain. Et cette ligne-là, en fait, elle nous permet d'aller beaucoup plus loin dans l'imaginaire, de travailler aussi les formats, c'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir quelque chose qui soit de l'ordre de la visite théâtralisée clairement, mais emmener les gens aussi sur une forme d'enquête interactive. Donc c'est assez intéressant. On est aussi avec ce que je disais au tout début, en fait, sur cette ligne artistique qui nous permet de nous différencier. C'est vrai que là, sur le territoire, ça nous permet d'avoir vraiment cette patte qui est devenue la nôtre au fil des ans, là, depuis 10 ans, et qui fait parler de nous dans tous les cas. On sait qu'au château, il y a du théâtre. Et quand on y vient, et c'est ça qui est important, c'est aussi qu'on puisse se démarquer, en fait, et que chacun défende aussi son contenu avec son savoir-faire.
Mais vous continuez à vouloir vous réadapter, vous innover. Je pense par exemple au partenariat avec Sortilège qui est tout récent.
Alors, c'est vrai que ça fait partie des nouvelles propositions de cette année, en fait. On travaille les tranches d'âge du jeune public, parce que c'est un public assez important pour nous, en fait, le public famille, à partir de l'âge de 3 ans. Et on a toujours eu des propositions entre les 3-6 ans, les 6-9, avec soit des chasses au trésor, soit, comme je disais, en fait, des déambulations comptées, en fait. Il y a le format à pas compter, par exemple, qui permet d'aller dans le parc en intérieur, qui fonctionne très bien. Par contre, pour les plus de 12 ans, il y avait toujours, en fait, on va dire un flou, parce qu'on est sur un âge en fait qui suit moins les prescriptions des parents, qui a un peu plus de mal en fait aussi à se retrouver dans ce qu'on lui propose, parce que venir visiter un château à 12 ans, enfin on le fait avec le collège, mais sinon voilà, c'est un petit peu contraint et forcé.
On n'est plus un enfant, mais on n'est pas encore un adolescent.
Voilà, et l'idée c'est de voir à quel endroit en fait on pouvait aussi les récupérer. Donc pour les plus vieux, c'est pour ça qu'on a travaillé sur une salle d'escape room qui commence à partir de 15-16 ans en fait, ouais. Où on peut récupérer les lycéens, voire les étudiants en fait, en termes d'entrée pour l'âge. Et là, on a travaillé avec Sortilège en fait pour mettre en place un jeu de plateau, un jeu de rôle qui donc sera sur demande, mais qui peut fonctionner pour à peu près 6 personnes avec une scénarisation qu'on a fait en interne aussi. Donc, et dans ce partenariat-là avec Sortilège, parce qu'ils étaient très enthousiastes en fait de s'associer à nous, on a été plus loin pour aussi en fait varier le plaisir avec d'autres jeux de société et travailler sur cette notion de jeu qui apparaît au fil des siècles. Ça fait partie des thématiques que mes collègues abordent avec les collégiens notamment. Cette notion de loisir, de jeu de société, en fait, ça fait partie du temps de convivialité. Depuis 2 ans, on voit bien que le jeu de société, il a quand même repris une certaine force, parce qu'on s'est rendu compte que ça avait un intérêt d'avoir de l'occupation chez soi. Mmh. Et nous, on s'est tourné vers cela, en fait, à la fois par affinité, je pense à certains de mes collègues, mais également pour essayer de viser juste, en fait, sur une proposition qui pourrait toucher un public adolescent, en fait, bien plus précisément.
Et ce sera les samedis matins.
C'est ça.
Parfait. Alors si on va un petit peu plus loin encore dans la diversification des moyens pour valoriser ce patrimoine, j'aimerais évoquer cette vidéo YouTube, ces vidéos YouTube qui ont cumulé presque 15 millions de vues et dans lesquelles on aperçoit le château du Plessis-Massé.
Alors, c'est vrai que on a essayé de travailler la question de l'image du site depuis pas mal d'années déjà. Et depuis maintenant 2 ans et demi, on a eu des propositions de la part d'une entreprise qui s'appelle la Redbox, qui est composée de youtubeurs angevins qui marchent très très bien, avec des gens en fait qui sont très investis dans leur domaine, qui maîtrisent très bien en fait les codes et le public qu'ils arrivent à toucher. La preuve en est, c'est qu'ils ont chacun l'équivalent de 5 à 6 millions d'abonnés en fait sur leur compte, donc on a quand même
sur une tranche d'âge bien précise.
Bien précise, on est sur du 12-24, 12-25 dans ces eaux-là, et donc on a été sollicité à la fois pour du partenariat, mais également pour des projets commerciaux, pour que le lieu serve en fait sur ce type d'objet artistique, parce que ça reste encore un objet artistique. Et la question s'est posée chez nous, voilà, comment on pouvait aussi interroger notre façon de faire.
Culture, pas culture, peut-être, ouais.
Exactement. Et au final, on s'est dit, en fait, que si ça pouvait être le moyen, en fait, d'aller chercher un public qui ne viendra pas chez nous ou qui ne connaîtra pas chez nous, tout ce qu'on peut y proposer, en fait, ça avait vraiment un intérêt assez fort. Et en plus, le partenariat s'est vraiment très bien passé. On a des équipes hyper pro en face de nous, avec pas mal de moyens. On l'a vu sur la dernière vidéo qui a été sortie pour le compte du
avec un dragueur
vidéo,
et tout,
voilà,
ça, ouais,
avec
ça.
Assassin's Creed, et on avait pas mal de moyens humains et techniques sur place, mais à chaque fois ça s'est fait dans le respect du lieu et dans la valorisation du lieu. Et en fait, nous, le sens que l'on met à ça, c'est toujours que le public puisse comprendre comment il peut faire que ce soit son patrimoine, comment il s'en empare, en fait. C'est notre manière de défendre les choses, et c'est pour ça que ça nous a toujours paru assez logique.
Merci beaucoup Emmanuel Dupont d'être venu chez Clic Clac Topette. Donc je rappelle que vous êtes directeur du château du Plessis-Massé. Un petit mot pour conclure ou pas pour nos chers auditeurs?
Moi, j'invite tout le monde à venir faire un tour en fait par le château du Plessis-Massé à la mi-mai, voilà, si tout allait très bien, plutôt vers l'été, hein, pour ceux qui voudraient attendre. En tout cas, voilà, on a fait une très belle saison l'année dernière, donc on attend vraiment tous ceux qui voudraient redécouvrir le château ou le découvrir, parce qu'il y a énormément de propositions à faire en famille, en individuel, voilà, pour tous les goûts.
Alors justement, où est-ce qu'on peut se tenir au courant du feu vert, du moment où ça va partir?
Alors le plus Facebook. Simplement du monde, ça va être sur le site internet du château, ouais. En fonction de l'actualité, sur www.chateauduplessis-massé.fr.
Très bien. Merci beaucoup Emmanuel Dupont.
Merci.
Jean-Yves Rondeau, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes président des Amis de la Verrière à Angris, ce sont des fours à chaud, n'est-ce pas?
Oui.
Mais également du RAP. Le RAP, c'est le réseau des acteurs du patrimoine en Haute-Anjou, qui pour le coup regroupe plusieurs associations du patrimoine. Ça, quel but précisément ce RAP?
Le RAP, il est né en fait d'une initiative du CODEV, vous savez, ces comités de développement qui ont été créés un peu partout en France, donc comité de développement du pays de l'Anjou bleu, qui a créé une section orientée sur le patrimoine, dans le but de développer le patrimoine. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour développer le patrimoine en Anjou bleu ? Nous sommes maintenant, depuis très peu, depuis une dizaine de jours, nous sommes devenus une association, le réseau des acteurs du patrimoine.
L'idée, en fait, c'est de donner plus de force aux initiatives, en fait, qui ont trait au patrimoine.
Oui, et de faire... Alors, nous ne sommes pas des décideurs, nous sommes des remonteurs d'idées auprès des élus, c'est eux qui décident. Et c'est vrai que, comme nous sommes d'origine très diverse, ces 12 fondateurs sont représentatifs de patrimoine vraiment très différents les uns des autres. Donc, de cette diversité naît pas mal d'idées.
Donc, l'idée principale reste seul, on peut aller loin. Non, seul, on va vite, mais à plusieurs, on peut aller loin, en gros.
On peut aller loin, exactement. C'est vrai qu'en se regroupant, en discutant, on trouve des idées. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Je peux en faire une illustration, par exemple, en vous montrant, en citant ce que nous avons mis en avant très récemment. C'est sur la question de la signalétique. C'est une question parmi d'autres, mais
indiquer les lieux.
Oui, quand on arrive en Anjou bleu, il n'y a pas de panneau qui vous dise on arrive en Anjou bleu. Et ça, c'est pourtant, il y a des tas de régions qui font des choses comme ça. Vous arrivez en Périgord noir, vous le savez, c'est indiqué.
C'est vrai que c'est le premier pas à faire pour pouvoir mettre en avant le patrimoine qu'il y a au sein d'un territoire, finalement.
Oui.
Jean-Yves Rondeau, si on parle de la Verrière, des fours à chaux, de votre association à vous, qu'est-ce que c'est précisément, en fait ?
Alors, les fours à chaux, ce sont des constructions qui sont beaucoup développées au 19e siècle et qui sont complètement abandonnées depuis. C'est-à-dire que bon, les derniers ont fonctionné au début du 20e. Voilà. Donc, la plupart sont d'anciennes usines complètement désaffectées et en ruine. Et on peut dire que 95-98% des fours à chaux sont en ruine, pas seulement dans le paysage d'Anjou, mais dans le paysage français.
National,
Et peut-être même au-delà. Voilà.
Et du coup, à la Verrière, qu'est-ce qu'il y a à voir dans un four à chaux, finalement ?
Il y a 1000 choses à raconter. Parce que on sait ce que c'est que la chaux, en gros. On sait que ça sert dans le bâtiment, ça sert à plein de choses. Mais on ne sait pas comment ça se produit, on ne sait pas comment c'est fabriqué, on ne sait pas. Voilà. Et donc, il y a 1000 choses à raconter et à faire vivre. Et les gens qui visitent ces fours à chaux, qui sont à visiter, bien entendu, découvrent et repartent tout heureux d'avoir...
Jean-Yves Rondeau, en attendant ces fameux panneaux là qui peuvent indiquer où sont les sites emblématiques en Anjou bleu, on fait comment si on veut venir visiter les fours à chaux de la Verrière ?
Alors, il y a un site internet, et si vous tapez Verrière ou four à chaux, vous allez probablement tomber sur ce site, et vous aurez les coordonnées pour me joindre. C'est moi qui fais les visites personnelles, puisque ce sont des fours à chaux privés. La visite dure à peu près 1h30. Donc, 10, 15 personnes, vous avez des amis, vous voulez passer un petit moment dans le week-end, leur montrer quelque chose d'un peu original.
On loue le four à chaux, en fait.
Vous m'appelez, on prend rendez-vous et je vous accueille avec le plus grand plaisir et je vous fais découvrir les fours à chaux de la Verrière.
Merci beaucoup, Jean-Yves Rondeau. En tout cas, je rappelle que vous êtes président des Amis de la Verrière, donc les fours à chaux dont on vient de parler, mais également du RAP, le réseau des acteurs du patrimoine en Haute-Anjou, pour promouvoir un petit peu le territoire et remonter ces informations-là aux élus pour prendre de bonnes décisions à propos du patrimoine. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, bonne journée.
Le classement pro ou Villeberry.
L'émission touche à sa fin, mais avant de se quitter, allez faire un tour dans la story Instagram de Clic-Clac-Topette pour participer au concours qui vous permettra, peut-être, de gagner l'Anjou remarquable, un bel ouvrage photo sur notre beau département. D'ailleurs, pour rester en contact et réagir au sujet, rejoignez-nous sur ces réseaux sociaux, Facebook et Instagram, à Clic-Clac-Topette. N'hésitez pas également, si vous voulez, aller sur YouTube pour vous balader en Anjou grâce à nos vidéos avec Cisco au programme, Beaugé, Segris, Beaufort et Saint-Florent-le-Vieil. Pour écouter cette émission, c'est sur l'onglet replay du site de radio-g.fr. Pour le reste, je vous donne rendez-vous lundi dans 2 semaines à 13h sur le 101.5 FM de Radio G. Prenez soin de vous, topette !